Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il ne faut pas se rendre en Afrique et y séjourner pour jouer au maître, au professeur. Celui qui y était parti pour construire des routes, qui ne portait pas de casque et qui devenait ami des Africains, allait les filmer, ces Africains, leur donner la parole alors qu'on lui avait chaudement conseillé de ne pas avoir de contact avec les indigènes. Le drame du racisme, à double sens, n'échappait pas à Jean Rouch, et dans l'émission de José Pivin, « Tous les plaisirs du jour sont dans la nature », il revenait sur son itinéraire intellectuel et de cinéaste. C'était le 29 juillet 1961 sur France 2 Régionale.
« Les plaisirs du jour sont dans la matinée », une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présente aujourd'hui Jean Rouch. Des extraits des livres de Jean Rouch, « La religion et la magie chez les Sonrailles » et « Les Sonrailles » seront lus par Jean Topard, prise de son Pierre Simon, assistante de production Marie-Claude Dupas.
Ces moments que nous allons passer avec Jean Rouch nous feront découvrir d'autres limites que les nôtres. Les paysages deviendront ceux des bords du Niger et la pensée humaine, celle des hommes qui habitent cette région. Nous entrerons ainsi dans un monde nouveau où, pourtant, nous ne nous sentirons pas étrangers. Jean Rouch, pour nous permettre de retrouver avec vous les origines d'une amitié qu'on pourrait retrouver partout, voulez-vous nous parler de votre enfance ?
Mon père était officier de marine, était professeur à l'école navale. Et j'habitais Brest, et un de mes souvenirs était, nous avions une maison qui donnait sur le cours d'Ajot, où l'on voyait la mer et le coucher de soleil. Ma mère, un jour, était avec quelques-unes de ses amies, et je l'ai entendu dire, regardez, que nous avons un beau panorama. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, un panorama, c'était un oiseau. Et pendant des journées, j'ai regardé par la fenêtre pour essayer de voir ce beau panorama alors qu'il n'y avait que des moineaux. Je devais avoir 4 ans peut-être. Mais c'est depuis ce temps-là que, par exemple, j'aime les villes qui sont tournées vers le soleil couchant. Je n'aime pas la Côte d'Azur, sauf Saint-Tropez ou Cannes, parce que l'on ne voit pas le soleil se coucher sur la mer. J'aime Niamey au Niger parce que le soleil se couche sur le fleuve. À Paris, je cherche à habiter des maisons qui donnent sur le soleil qui se couche. Et je sais que quand j'étais en première, par exemple, quand je préparais mes bacs en première ou en mathélème, j'avais une chambre qui donnait au-dessus des toits sur le soleil qui se couchait. Et j'ai bien failli rater mes bacs parce que je restais des heures et des heures à regarder le ciel au-dessus de Paris. Quand je vois le soleil se coucher, pour moi, c'est le synonyme de cette espèce de monde merveilleux qui existe derrière. Je me suis passionné à un moment donné pour Henri le Navigateur et la découverte du monde par les Portugais. Je ne suis jamais allé au Portugal, si ce n'est en escale très rapide. Et je sais que Henri le Navigateur avait un château sur un promontoire, le promontoire de Sagres ou Sagres, je ne sais pas ce que l'on dit, qui est le menton du Portugal, et que là, il regardait le soleil se coucher sur la mer, et que c'est comme cela qu'il a envoyé des flottes découvrir le monde. Eh bien, pour moi, c'est plus qu'une image, c'est un énorme symbole. Beaucoup de choses dans ma vie qui semblent complètement illogiques aux gens qui m'entourent, beaucoup de choses que j'ai entreprises, beaucoup de changements de direction ont été dus à cela. J'ai eu la chance, étant très jeune, je vous dis, mon père était officier de marine et j'ai eu la chance de voyager. J'ai fait 7 lycées quand j'étais petit, en allant un peu partout. Et mon père avait été membre des expéditions Charcot, dans l'Antarctique. Et de ce fait, toute mon enfance a été bercée de récits de voyages, d'explorations, de pôle sud, de pôle nord. Mon père était très, très heureux que je fasse naval, et je dois dire que j'avais aucune envie de rentrer dans ce milieu qui, en dehors de lui, me semblait mesquin et un peu ridicule. Je n'aimais pas beaucoup la société, enfin, j'avais la réputation d'être un peu boudeur et timide, mais je croyais à pas mal de choses.
Est-ce qu'il est arrivé un moment où, tout en croyant toujours à pas mal de choses, vous avez senti que d'autres événements, moins merveilleux peut-être, pouvaient se produire ?
Si, bien sûr, il y avait la guerre d'Espagne. J'étais trop jeune, mais enfin, si vous voulez, absolument inconsciemment, dès ce moment-là, enfin, j'avais choisi. Et j'étais en mathématiques supérieures à ce moment-là, au lycée Henri IV. Et nous étions très peu dans ce cas-là. Et je m'étais dit, ce n'est pas possible, enfin, c'est eux qui ont raison. Or, à cette époque, j'avais 18 ans. Et avant la guerre, ils étaient assez rares, les gens qui, à 18 ans, étaient engagés dans la politique comme aujourd'hui. Mais enfin, a priori, si vous voulez, j'avais eu un geste instinctif vers cela. Et je me sentais un peu en désaccord avec le reste. Le mouvement surréaliste a eu une énorme influence pour moi. Or, c'est une époque où les surréalistes étaient connus de quelques-uns et reniés par tout le monde. Le jazz également, alors que le jazz n'avait aucun succès. Je me souviens du premier concert de Louis Armstrong à Paris à la salle Pleyel, où il y avait, disons, 250 personnes, dont la plupart n'étaient pas du tout intéressées par ces histoires-là.
Et vous y étiez ?
Par hasard et peut-être par déjà un refus inconscient d'accepter des choses que l'on m'apprenait en classe. Tout ça s'est écroulé d'un coup en 39 pendant la retraite. À ce moment-là, j'étais rentré à l'école des Ponts et Chaussées et j'étais aspirant du génie. On m'avait appris, à cette école, j'ai fait 2 ans d'école, on m'avait appris à construire des ponts. Et les premières choses que j'ai faites dans la vie étaient de faire sauter des ponts. En dehors du côté esthétique, qui est considérable, le drame de la retraite était pour moi absolument total. Je suis né pendant l'autre guerre, et malgré moi, je croyais à certaines traditions. Et puis j'ai vu tout ce monde français, tous les gens en lesquels j'avais une certaine foi qui partaient sur les routes. J'ai vu des hommes plus âgés que moi avoir peur, j'ai eu à engueuler un héros de la guerre dernière et qui avait peur. Moi-même aussi, j'avais peur, bien sûr. Et alors là, je me suis dit que tout ce qu'on m'avait appris, c'était pas vrai, ça n'existait pas. Je me souviens d'avoir entendu le discours de Pétain juste avant l'armistice. J'étais à côté de soldats qui étaient heureux parce que la guerre était finie, qu'effectivement, quelque chose était fini. Mais là, c'était terminé. Je me disais, je n'ai aucune confiance en personne, c'est pas vrai. On m'a trompé. Et puis, pendant cette guerre, 2 de mes excellents camarades avaient perdu un bras chacun. Je suis rentré à Paris parce que j'avais une année d'école des Ponts et Chaussées à finir. J'ai passé une année à Paris avec mes camarades et vraiment dans une révolte complète. Dès le début, nous avions des imbécilités, on changeait les signes indicateurs des Allemands. Nous avions participé à ces manifestations d'étudiants, les premières manifestations de novembre 1941. À Pâques, nous avons été arrêtés par la Gestapo en Bretagne. Nous étions allés en Bretagne sans très bien savoir, en disant « la Bretagne, c'est la porte de l'Angleterre », avec 2 de mes camarades. Et puis, ils étaient tellement beaux qu'on se baignait dans les plages. Ça nous montrait notre état d'esprit. On se baignait sur ces plages et on était arrêtés. Et nous avions comme seul bagage que des maillots de bain. Alors, quand nous avons dit aux Allemands qu'on ne pouvait quand même pas partir de la Bretagne en Angleterre à la nage, ils ne comprenaient pas très bien. Depuis ce temps-là, nous étions surveillés. Et c'est une des raisons qui m'a poussé avec un certain nombre de camarades à partir pour l'Afrique. Vous voyez, mon départ pour l'Afrique n'était pas du tout motivé par autre chose. C'était le moyen de partir officiellement de France, sans pour cela tirer sur nos familles des représailles. Je suis parti comme ingénieur des travaux publics de la France d'outre-mer, qui s'appelait à ce moment-là le travaux publics des colonies. Juste avant de partir pour l'Afrique, c'était à la fin de 41, nous étions sur la Côte d'Azur. Et là, nous attendions un embarquement pour l'Afrique. Et avec un de mes copains, Jean Sauvy, nous sommes allés descendre le Verdon à la nage. Et nous avons fait quelques photos que nous avons vendues à un hebdomadaire de Lyon. Et là, nous avons gagné un peu d'argent et au fond, nous aurions très bien pu rester à vivre de bricoles. Et puis, nous avions trois autres de nos camarades qui nous attendaient, alors nous sommes tous partis en bloc. L'idée que nous avions d'ailleurs en partant pour l'Afrique était d'essayer de se retrouver, de faire quelque chose, de penser un petit peu. En fait, c'était pour moi et pour nous tous une expérience assez considérable, car nous avons été tous séparés. Nous sommes arrivés un jour à Dakar, et l'Afrique d'alors était abominable, pire que la France. Plus on descendait vers le sud, plus les gens étaient germanophiles, ce qui est quand même singulier. Alors, Dakar, c'est épouvantable. Par hasard, on m'a envoyé à Niamey. L'inspecteur général des travaux publics m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit, vous partez vers le Niger, vous allez faire un travail formidable. Et il m'a dit, mais je vous donne un conseil, ne vous bougnoulisez pas. Le bougnoul, en argot colonial, c'est l'africain, c'est le noir. Pas de contact. Et là encore, une fois de plus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là enfin, alors je suis parti, révolté, en me disant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis je suis arrivé à Niamey, qui était à ce moment-là une bourgade, le pire chef-lieu de province qu'on puisse imaginer. Et j'étais chargé de construire des routes. J'étais responsable d'un pays grand comme la moitié de la France. Et là, le travail était quand même passionnant pendant 8 mois. J'ai construit à peu près 2000 kilomètres de route. J'avais au début essayé d'avoir des contacts avec les Blancs. Et très rapidement, là c'est une période très dure, j'avais 23 ans, 24 ans, et j'étais tout seul. Et les seuls contacts que j'ai eus, ce sont les Africains. Seulement à partir du moment où j'ai eu le contact avec les Africains, j'étais presque mis hors de la société blanche. Alors, les gens qui me voulaient du bien me considéraient comme un personnage un peu énigmatique, au bord de la folie. Moi-même, je ne savais pas très bien, et finalement, j'ai découvert les Noirs de façon tout à fait singulière. Un jour est venu s'embaucher dans le secteur que je dirigeais un jeune garçon qui s'appelait Damour Evika et qui sortait de l'école professionnelle. Il se disait relieur. Je lui ai donné un livre à relier. Il me l'a rapporté une semaine plus tard, une espèce d'énorme morceau de colle. On ne pouvait plus l'ouvrir. Alors, je l'ai embauché quand même. Il est devenu pointeur de manœuvre. J'étais quand même responsable à ce moment-là de près de 10 000 manœuvres. C'était le temps affreux des travaux forcés. Et moi, je ne comprenais rien. Au point de vue technique, ça n'avait aucun intérêt. On faisait des routes qui étaient faites par des petits paniers avec des hommes. Les chefs de chantier que j'avais étaient, pour la plupart, ivrognes. C'est des gens encore plus âgés que moi et le contact était vraiment terrible avec eux. Damour Evika, pointeur, m'emmenait. J'aime nager, j'allais nager dans le Niger. Personne n'allait dans le Niger ou très peu allait se baigner dans le Niger. On avait peur des crocodiles, on avait peur des maladies. J'allais faire de la pirogue. Et peu à peu, il m'a emmené chez ses parents, il m'a emmené chez sa grand-mère, et il était pêcheur. Et sa grand-mère était la reine des pêcheurs du Niger. C'est une femme au pouvoir considérable. Et j'allais la voir, et peu à peu, j'ai commencé à apprendre à baragouiner la langue, à m'intéresser aux pêcheurs. Cette femme était un de ces sages, je ne sais pas comment on dit au féminin, qui était le dépôt vivant d'une tradition qui venait de son père, de son grand-père, de ses arrière-grands-pères. Et qui m'a fait découvrir un monde qui était complètement fabuleux. Un monde panorama, pour en revenir à mon image de tout à l'heure. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, voilà des gens qui ont quelque chose. Et tout cela était tellement gentil, et tout cela était, quand j'y pense, était finalement tellement miraculeux, parce que, malgré tout, j'étais un blanc. Donc j'étais l'homme qu'on n'approche pas, j'étais celui qui reste dans son bureau, qui reste sous son panka, qui reste dans sa résidence. Puis il y avait eu ce contact, peut-être parce que je savais nager, j'aimais nager sous l'eau, je faisais de la pirogue, parce que je ne portais pas de casque, parce que je ne sais pas. Jusqu'au jour où j'ai été expulsé du Niger comme propagateur gaulliste. On m'a envoyé à Dakar, et puis les Américains avaient débarqué.
Voici maintenant une légende recueillie plus tard par Jean Rouch au cours d'une de ses expéditions en Afrique noire. C'est l'histoire de Zoa, l'ancêtre héros des Songhaï, vaincu par la honte d'une mauvaise action.
Zoa vivait à Mali. Son père était chef. Un jour, il entendit dire par des gens de passage que le sang des cultivateurs de petits milles devient de l'eau. et que si l'on donne du foie de mouton à manger à une femme enceinte, c'est son enfant dans son ventre qui le mange. Zoa a envoyé ses captifs cultiver le petit mil. Zoa est allé avec eux dans les champs, il leur a ouvert le ventre et de l'eau en est sortie. Zoa est rentré au village, il a donné du foie de mouton à une de ses captives qui était enceinte, il lui a ouvert le ventre et il a vu l'enfant qui mangeait le foie. Mais son père a appris ce que son fils avait fait. Il a été furieux. Il a appelé son alpha et lui a dit ce que Zoa a fait. Son alpha lui dit, fais attention, Zoa est un wali. Ce qu'il pense seulement, c'est ce qui arrive. Le père de Zoa a appelé son fils et lui a dit de quitter le pays. Zoa est parti, seul, à pied, avec son arc et ses flèches. Il est arrivé dans l'Anzourou, à l'endroit où est actuellement Sangaré. Au pied d'une termitière, il a vu une lionne blessée. Zoa a soigné la lionne et lui a dit « Viens avec moi ». Et la lionne est venue maintenant avec Zoa. La lionne et Zoa ont chassé ensemble. Chaque fois qu'ils rencontraient des gens, Zoa leur disait « Venez avec moi ». Et il n'y a rien à faire, les gens quittaient leur village pour suivre Zoa. Zoa les a tous installés à Sangaré. Un jour, Zoa a voulu se marier. Il a entendu dire que la fille du roi du Gobir était la plus belle. Il est allé en volant chercher cette fille qui s'appelait Alzoumawi. Il l'a ramenée en volant à Sangaré. Il en eut un fils qui s'appelait Mourou. Mourou se maria à son tour et eut un fils qui s'appelait Soumeila. Zoa promenait un jour Soumeila dans les champs autour de Sangaré. Ils arrivèrent dans un champ de petit mil qui appartenait à Zoa. Le petit mil était mûr et les oiseaux venaient manger les graines. Zoa a dit à Soumeila, « Tu vois cet oiseau qui mange mon petit mil, il n'a qu'à mourir. » Et l'oiseau est tombé mort tout de suite. Soumeila a dit qu'il voulait manger le petit oiseau. Zoa a dit, « Cet oiseau n'a qu'à griller sur un feu. » Un feu s'est allumé tout seul, mais si fort que le corps de l'oiseau a entièrement brûlé. Alors Soumeila s'est mise à pleurer en demandant son oiseau. Zoa a eu honte de ce qu'il avait fait. Il a dit, « Maintenant, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. La terre n'a qu'à s'ouvrir ici même et je n'ai qu'à disparaître dedans. » La terre s'est ouverte aussitôt. Soumeila a appelé tous les gens du village qui sont venus au bord du trou. Zoa leur a dit, « Laissez-moi suivre le chemin que j'ai dit. » Tous les gens du village étaient autour du trou, et Zoa leur parla. Maintenant, il dit, « Soumeila, tu seras chef après moi, et ton village s'appellera Sangaré. Et vous, les gens de Sangaré, le jour où la tornade ne veut pas venir, le jour où il y aura du mal, le jour où la guerre va venir, venez ici, apportez-moi un mouton ou un taureau blanc et égorgez-le. Et il n'y a rien à faire, ce que vous m'aurez demandé, je vous le donnerai. » Mais attention, j'interdis ce lieu aux sourds, aux aveugles, aux hernieux et aux bâtards. Et Zoa disparut dans la terre. Et la terre se referma et quatre arbres poussèrent dans la direction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tous les ans, les gens de Sangaré vont voir Zoa. Et même l'année dernière, où il n'y avait pas de récolte, ils ont demandé à Zoa et on leur a donné du mil quelques jours plus tard. Mille distribués effectivement par l'administration. Il n'y a rien à faire, tout ce qu'on demande à Zoa, on le gagne. Et si la guerre n'est pas venue à Sangaré, c'est parce que Zoa l'a empêché.
Il y a un fait qui m'a paru avoir son importance dans ce que vous venez de dire, c'est que les Noirs paraissent faire une distinction entre les bons Blancs et les mauvais Blancs, alors que les Blancs, eux, auraient plutôt tendance à mettre tous les Noirs dans le même panier.
C'est un peu différent. Moi, je l'ai appris depuis, parce que je suis retourné, comme vous le savez. Et j'étais très surpris de cette histoire, et quand j'en ai reparlé ensuite, je me suis aperçu que les Africains avaient un sens absolument inné du comportement. En voyant quelqu'un qui marche, la façon dont il se tient, l'éthique qu'il a, en l'observant, en voyant ce qu'il mange, ce qu'il aime, ce qu'il dit, tout de suite ils savent qui il est. J'ai eu un surnom 4 jours après être arrivé en Afrique, qui est donné simplement par les boys de l'hôtel. surnom était simple, il était Hari Hari Dielisekoi. Ça veut dire celui qui rit, mais Hari, ça veut dire celui qui rit. Hari Hari, ça veut dire celui qui rit peut-être un peu trop, vous voyez, on retombe dans le domaine un peu pathologique. Et Dielisekoi qui a une petite biche, car j'avais, comme tous les gens qui viennent, j'avais adopté une petite biche. Les gens de cette époque, je veux dire, ne riaient pas beaucoup, les blancs de cette époque. Moi, si vous voulez, j'étais révolté, mais j'avais une certaine bonne humeur et une certaine facilité pour le rire, pour une certaine joie. Et je crois que c'est ça, le point de départ. Mais en tout cas, tout est observé, tout est classé dès le début. J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Quand vous disiez « on classe les gens », bien oui, par exemple, lorsqu'un blanc arrivait dans une petite ville comme celle-là, il s'agissait pour lui de lui donner un cuisinier, un boy, du personnel. Eh bien, je l'ai appris après, il existait une sorte de réunion qui maintenant est devenue d'ailleurs le syndicat des gens de maison, et qui à ce moment était simplement un groupe des domestiques, et qui observait d'abord à l'hôtel, par l'intermédiaire des domestiques de l'hôtel, ce qu'était ce personnage. Et quand il demandait, ce qui était la façon normale de procéder, à l'hôtel ou un de ses amis, est-ce que vous n'auriez pas un boy pour moi, celui qu'on lui envoyait, ce n'était pas par hasard, celui qui devait convenir le mieux à son tempérament. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Il y avait là une science de vie, qu'on peut appeler une science du comportement, qui est basée sur très peu de choses, et qui va de plus en plus, qui est la naissance de l'amitié, qui est une chose compliquée. Si vous voulez, pour des Africains, être ami avec un blanc, c'est d'abord le faire tomber de son piédestal. Et c'est très difficile, car les blancs n'aiment pas tomber de leur piédestal. Et pour des Africains, enfin ceux que je connais, pour pouvoir être ami de quelqu'un, il faut connaître ses défauts. On aime quelqu'un parce qu'il a des défauts, c'est-à-dire parce qu'il est un homme. On n'aime pas avoir ses qualités. Les qualités, c'est normal. On aime des défauts bien humains.
Des défauts qui sont
la colère. Un homme froid, moi je me mets en colère. Lorsqu'ils ont affaire à quelqu'un qui, au lieu de les engueuler d'un ton froid, leur dit quelque chose, c'est un chef, effectivement. Seulement, le chef, c'est quelqu'un auquel on ne peut pas parler, donc ça n'existe pas. Alors on en fait ou un personnage que l'on essaye d'expulser, ou un dieu. C'est le recours qu'ont les hommes lorsqu'ils ont à se débarrasser de quelqu'un.
Voici maintenant, extrait du livre de Jean Rouch, Les Songhai. Présentation des Songhai.
Les Songhai ont un très grand orgueil d'être Songhai. Ils n'oublient pas qu'ils sont les descendants des maîtres d'un immense territoire. Fiers de ce passé de conquête et de gloire, ils ont conservé, malgré les revers ultérieurs et les invasions, une mentalité d'homme libre et indépendant, presque de conquérant. Et ceci à tous les échelons sociaux. Le captif est aussi orgueilleux des exploits des Sonni ou des Askias de la grande époque que leur maître, descendant direct de ces prestigieux capitaines. Si, au Songhai du Nord, cette fierté n'est pas souvent perceptible, plus on va vers le Sud, plus elle se manifeste. Mais c'est surtout dans les groupes expatriés qu'elle est le plus sensible. Les groupes Songhai de Bamako, Dakar et surtout de Gold Coast ont un orgueil national qui tient presque du chauvinisme. Sur le plan individuel, la fierté se retrouve dans une vanité à toute épreuve. De même que les Songhai se sentent supérieurs aux autres Noirs, le Songhai doit être lui-même supérieur à ses compagnons. Ses efforts de coquetterie vestimentaire, son désir d'acquérir des biens, son envie d'accéder à des postes élevés s'il est employé, ou de réaliser des exploits extraordinaires, sont le plus souvent motivés par ce seul ressort. L'exemple des Gold Coasties est encore caractéristique. La Gold Coast représente, surtout pour le jeune Songhai, une aventure dangereuse, une épreuve comparable aux guerres d'autrefois. Si le pillage du temps jadis a été remplacé par le résultat de durs travaux lointains, le retour est bien celui du guerrier vainqueur. Toutes les peines, tous les dangers trouvent leur consécration dans la minute de vérité du retour triomphal. Ces boubous magnifiques et enfilés les uns au-dessus des autres sont l'uniforme d'un Gold Coastier héros. Ses caisses et ses colis enveloppés de papier goudronné sont le butin chèrement acquis. En quelques instants, tout est gaspillé, les caisses et les paquets éventrés, les riches vêtements diminués de moitié. De 6 mois de travail, il ne reste que quelques boubous brodés, quelques billets de livres sterling, mais qu'importe. Les griots chantent les louanges du prodigue, Les femmes et les jeunes filles l'admirent. Ses camarades sont gris de jalousie. Pendant quelques instants, il a été placé au-dessus de tous les autres. Cette vanité exige évidemment un certain goût du risque, un certain courage. La notion de courage, de cœur debout, est assez déroutante. Les Sonrai considèrent que cette qualité est plutôt extérieure à l'homme, que c'est un état qui n'est pas donné et qui ne s'acquiert que difficilement, c'est-à-dire seulement lorsque les circonstances en valent la peine. Si un ennemi trop puissant ne peut être vaincu avec des moyens normaux, il faudra faire le courage. Le plus souvent, le griot est chargé de ce délicat travail. En recourant à la musique, aux phrases rythmées des devises, en rappelant les hauts faits des ancêtres, il parvient à créer une seconde personnalité, à lever le cœur du guerrier au combat, du chasseur de lions, du pêcheur d'hippopotames, du Gold Coastier défaillant et souffrant du mal du pays. Ce courage, ça a évidemment éphémère, mais il suffit en général à triompher de l'épreuve. Le courage à bon escient révèle chez les Sonrai un certain sens de la mesure. Il est inutile d'être courageux hors de propos. En dehors des 3 ou 4 mois nécessaires aux travaux des champs, toute activité semble absente du pays Sonrai. Les hommes flânent dans les ruelles des villages, où ne travaillent que les artisans, forgerons, tisserands, menuisiers, et les femmes occupées aux besognes ménagères toujours recommencées. Quand par hasard les hommes s'embauchent dans quelques chantiers européens, ils ne s'y font pas remarquer par un zèle intempestif. Aussi est-on tout surpris en Gold Coast de retrouver ces mêmes hommes, là indolents et ensommeillés, ici infatigables et pleins d'ardeur. Les meilleurs travailleurs que nous employons, déclarait un chef de chantier des mines d'or de Presti. Cette différence d'attitude tient à un grand nombre de facteurs. Le travail librement choisi, possibilité d'acquérir des marchandises ailleurs introuvables, espoir d'aventure. Mais le plus important semble être le suivant. Le travail est méprisable pour un Sonrai, descendant de guerriers. Il ne peut être que le fait des femmes. Celui qui travaille devant une femme est honni. En somme, c'est encore un mouvement de vanité qui empêche un Sonrai de manier une pelle ou une pioche sur la route qui traverse son village, mais qui ne l'empêchera pas, à un millier de kilomètres de là, derrière une barrière de pays et de frontières, de se livrer avec un zèle extraordinaire à des besognes aussi infamantes que celles de docker, latrine boy ou pileur de mille pour les cuisinières à Shanti. Cette fidélité aux traditions et la possibilité de les contourner forment l'une des qualités maîtresses des Sonrai qui ont su et savent encore rester fidèles aux anciens principes tout en s'adaptant aux conditions nouvelles. Ces deux tendances dominent toute l'histoire du Sonrai. Les influences sorco, berbère, mandingue, islamique, marocaine, peul et touareg, enfin l'influence européenne, ont beaucoup moins bouleversé la culture Sonrai qu'elles n'ont été assimilées par elles. Sur le plan matériel, on retrouve les mêmes facultés qui paraissent contraires aux notions classiques d'évolution ou d'acculturation. On aurait pu penser que, mise en contact avec un pays industrialisé et équipé comme la Gold Coast, la main-d'œuvre Sonrai aurait adopté de nouvelles méthodes de faire ou de penser. En fait, les Sonrai, tout en profitant au maximum des avantages matériels de ce territoire, restent pratiquement en dehors de l'évolution de ses habitants. Ils n'ont avec eux presque aucun contact culturel. Mieux encore, ce sont eux, les gens de brousse, qui apportent là leur manière de penser et qui parviennent à les diffuser d'une certaine manière parmi les citadins d'Accra ou de Kumasi. Par exemple, vente de charmes magiques par les magiciens de Vanzerbe. Enfin, pour terminer ce tableau rapide du caractère Sonrai, il faut signaler l'heureux tempérament de tous ces gens, leur sens de l'humour, et la faculté de rire qui les empêche d'être les odieux prétentieux que les traits précédents semblent évoquer. Même dans les circonstances les plus dramatiques, le rire garde ses droits. Désarme tout homme en colère. Un cavalier tombe de cheval. Un mari est trompé. Un Gold Coastier se fait voler son pécule. Un guerrier perd son courage et s'enfuit. Un administrateur prononce des paroles furieuses, autant de motifs pour rire. Le revers de cette bonne humeur est qu'elle cause de faciles découragements. Quand l'homme rit, son cœur n'est plus debout, dont certains furent catastrophiques pour le Sunrise. Aujourd'hui même, ces manques subis de persévérance font souvent considérer les Sunrise ou les Erma comme des bons à rien, ou en tout cas bien inférieurs aux Dahoméens ou aux Togolais qui ont su s'infiltrer dans les fonctions administratives au Niger. Quant à moi, je pense que le fait de savoir ne pas se prendre au sérieux est un signe de sagesse.
Vous nous avez montré jusqu'à présent le bon côté de cette civilisation noire, mais il doit y en avoir d'autres, moins attrayants, je suppose.
Oui, effectivement, au début, j'étais un peu surpris, j'étais un peu inquiet. Je me souviens que la première manifestation religieuse africaine à laquelle j'ai assisté était l'enterrement de foudroyés sur un de mes chantiers. Un jour, la foudre avait tué 4 manœuvres. Et moi, comme un crétin, j'avais demandé à un prêtre musulman d'aller à cette cérémonie. Il me dit non, ce n'est pas moi. Et justement, c'était une de mes liaisons avec Kalia, la grand-mère de Damourezika, cette vieille femme. Car les pêcheurs au Niger sont en même temps les prêtres magistraux de la foudre et du tonnerre. Et j'ai assisté à une cérémonie que je n'ai plus revue depuis, qui est une des cérémonies les plus effroyables et les plus belles que j'ai jamais vues. Nous sommes partis avec cette femme et avec un certain nombre de musiciens. On a organisé autour des corps carbonisés une danse. Et au bout d'un certain temps, le génie du tonnerre s'est incarné dans l'un des danseurs qui a bu du lait dans une calebasse et s'est mis à cracher ce lait sur ses corps et à les frotter avec le lait qu'il crachait. C'était une cérémonie de purification. Cette cérémonie était d'une beauté tragique. Et là, j'ai compris que ça représentait quelque chose. Qu'il y avait, entre ces hommes et les puissances invisibles, un contact. Ce contact était aussi respectable que celui que nous pouvons avoir dans nos croyances.
Et pour en revenir aux impressions que certains blancs peuvent avoir au Niger?
L'impression désagréable, c'est le refus de contact, ne pas faire l'effort à partir du moment où il se trouvait en face d'un blanc, par exemple, qui n'était pas un méchant garçon. Et à partir du moment où ce blanc ne faisait pas les premiers pas, de ne rien faire pour lui, c'est-à-dire de répondre à l'indifférence par l'indifférence. Bien sûr, il y a l'indolence, bien sûr, il y a beaucoup de choses de ce genre. Mais là, c'est peut-être un des grands défauts. Est-ce un défaut, est-ce une qualité? C'est la vanité. C'est, je crois, le plus grand défaut africain actuel.
Et que s'est-il passé ensuite pour vous, après votre expulsion par le régime d'occupation?
Je suis arrivé à Dakar expulsé, donc, du Niger. Je suis arrivé, les Américains avaient débarqué, et je suis retourné dans l'armée. Et là, j'ai fait le débarquement, et la deuxième manche de la guerre, où cette fois-ci, on construisait des ponts. Je suis allé ainsi jusqu'en Allemagne, jusqu'à Ulm, et ensuite à Berlin. Nous sommes sortis de cette expérience avec une idée très curieuse qui était complètement asociale. Par exemple, lorsque nous sommes rentrés en France, mes camarades et moi, car nous étions dans la même aventure, nous nous sommes heurtés à une incompréhension totale. Par exemple, j'étais toujours ingénieur des ponts et chaussées, et nous avons essayé de sortir de cette administration coloniale, et les recherches de situation se heurtaient à ceci. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces trois dernières années? Et quand nous disions la guerre, des chefs d'entreprise nous disaient « Mais enfin, il y avait quand même des choses plus intéressantes à faire. » C'était exact, seulement, évidemment. Alors là, nouvelle révolte. Nous avons, à ce moment-là, décidé peut-être de nous en sortir nous-mêmes, enfin, individuellement, d'essayer de trouver une solution. J'étais avec deux de mes camarades, qui étaient les rescapés de ces aventures, qui étaient tous ingénieurs des ponts des chaussées, qui avaient la même carrière que moi, qui étaient partis comme ingénieurs en Afrique, qui avaient été séparés, et nous retrouvions. Et c'est avec ces deux camarades que, un jour, nous avons décidé de descendre le Niger en pirogue. Nous avons décidé, c'est-à-dire, de rompre complètement avec ce que nous faisions jusque-là, et de changer complètement nos activités. À cette sortie de la guerre, nous avions un an de congé. Et nous avons profité de cette année pour passer une licence de lettres. Moi, j'ai commencé à faire des études sérieuses d'ethnographie. En pensant au monde noir et en pensant retourner sur place. Je pensais y retourner sur place dès que j'avais quitté le Niger. Expulsé de ce pays, je me disais, rien à faire, il faudra revenir là. Nous sommes repartis donc après la guerre, avec Jean Sauvy et Pierre Ponty, avec des moyens plus que de fortune. Nous vivions en faisant du journalisme.
et en écrivant des articles avec l'aide de l'Institut français d'Afrique noire, pendant près d'un an, nous avons descendu le Niger en pirogue, de sa source jusqu'à la mer. Si vous voulez, c'était un retour au calme après la guerre. C'était également une épreuve pour voir ce que nous pouvions faire par nous-mêmes. Et c'était en plus une expérience unique pour essayer de nous placer dans ce continent africain. Le Niger traverse toute l'Afrique occidentale. C'est donc un moyen d'appréhender ce continent.
C'était une épreuve très dure ?
Non, dur aussi, il y avait des naufrages et tout ce qui se passe dans ce genre d'expédition. C'était dur parce que ça durait très longtemps, nous sommes restés 9 mois dans une pirogue. Pour moi, le Niger est un des plus beaux pays du monde. Seulement c'est très curieux car c'est un pays dans lequel il n'y a rien. C'est un pays très peu varié, très plat, une grande savane désolée au soleil. Et au milieu, très peu. Des épineux très jolis. Un peu comme dans les décors de Karzou. Puis il y a ce fleuve qui passe, ce fleuve qui est un miracle de fraîcheur et de verdure au milieu d'un presque du Sahara, avec juste une petite frange de verdure, et à côté commence la brousse, le désert. Des falaises latéritiques roses, le soleil et des gens qui sont certainement parmi les plus beaux qu'on puisse rencontrer en Afrique, des bêtes, des gazelles, des antilopes, des chevaux, il y a des lions. Une saison qui varie de façon fantastique. Pendant 3 mois de l'année, on gèle, il faut 4 couvertures pour dormir. Puis on a très chaud, puis il se met à pleuvoir. Et tout ça se transforme en jardin pendant 2 mois. Puis ensuite, ça redevient sec. Et donc c'est un pays que je trouve extraordinaire. Seulement, c'est un pays difficile. Et le visiteur qui y vient, le touriste qui y vient, en général trouve ça très laid, monotone, toujours la même chose. Seulement, au bout d'un certain temps, eh bien, vraiment, c'est un des plus beaux pays que je connaisse. C'est plus beau que le Bosphore, c'est plus beau que la Méditerranée. C'est merveilleux. Les premiers films que j'ai faits en Afrique étaient pour moi une façon d'essayer d'approcher ce monde et de le montrer aux autres. Je n'ai rien vu de plus difficile, par exemple, rentrant des voyages que j'avais faits, d'avoir cette impression de distance. Effectivement, quand nous sommes rentrés du Niger, quand je suis rentré ensuite des expéditions que j'ai faites ensuite, les gens en France me considéraient comme, vous savez, on regarde l'étranger qui vient d'ailleurs. Et les récits que je faisais, ou ce que je racontais, l'histoire que je racontais, quand je les entendais raconter par quelqu'un d'autre, c'était tellement pas ça, que je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Et effectivement, à cette époque, juste après la guerre, c'était encore le monde où la plupart des Noirs étaient, c'était le cannibale, c'était le Yabon Balania, c'était une série de bons stéréotypes. Et quand je parlais, par exemple, d'amis africains, ou bien les gens disaient, mais c'est tout naturel, car effectivement, en France, il n'y a pas un vieux racisme. Comme il en existe dans d'autres pays, on admet très bien être ami avec un noir, ça n'a aucun problème, il n'y a aucun problème. Mais pour d'autres, quand ils pensaient à cette Afrique et que je montrais des photos, que ces gens étaient à peu près nus, ou ils étaient habillés d'une façon différente, ils ne pouvaient pas comprendre. Et l'une des choses qui m'avait vraiment frappé, qui me semblait dramatique, c'est que j'avais suivi des cours comme ceux de Griol, qui était mon maître, qui était professeur en Sorbonne, et de me rendre compte que cet homme qui aimait ce pays, qui avait essayé d'en révéler la philosophie, avait tellement de mal à la transmettre en Europe. Et là, je me suis dit que le seul moyen était d'utiliser la caméra. Et les expériences que j'ai faites ont montré effectivement que c'était un véhicule absolument incroyable, un médium merveilleux. Alors j'ai commencé à faire ces films dans ce but, d'essayer de montrer aux hommes de la société à laquelle j'appartiens comment étaient ces autres hommes, qu'ils avaient un message à apporter, qu'ils avaient quelque chose à dire, que nous n'avions pas simplement à aller en Afrique pour être les maîtres, pour être les professeurs, mais que nous pouvions nous aussi apprendre quelque chose en Afrique. Et c'est comme ça que j'ai fait ces films. Et petit à petit, ces films étaient des films documentaires, mais de plus en plus, est-ce un tempérament personnel, j'en sais rien, je m'intéressais aux personnes. Et c'est comme ça que j'ai fait le film Moins Noir, à Abidjan, il y a quelques années, en me disant, enfin, on parle des Africains, on le parle comme s'ils étaient des bêtes, comme s'ils étaient des insectes, il faut leur donner la parole. Et j'ai réalisé ce film en rencontrant un docker auquel j'ai donné la parole. Et puis, c'était pas assez, et encore ce n'est pas assez. Je m'apercevais, si vous voulez, c'est un des drames de l'Afrique d'aujourd'hui, c'est le drame du racisme à double sens, du racisme des blancs envers les noirs et des noirs envers les blancs. Et je me suis dit, il faudrait essayer de démystifier cela. Alors, n'ayant pas confiance dans les adultes, je me suis dit, la seule solution est de prendre des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas été encore déformés complètement. C'est comme ça que j'ai réalisé cet autre film, La pyramide humaine, dans lequel je demandais à des jeunes Africains, Européens, garçons et filles, d'improviser sur un thème. Que se passerait-il si, au lieu de ne pas nous voir, par ignorance, nous avions des contacts entre nous? Et pour moi, c'était une expérience fantastique, non pas parce que je faisais un film, mais parce qu'en faisant ce film, devant moi, et c'est le sujet du film, un petit peu malheureusement le sujet du film, car tout cela n'est pas tellement évident, petit à petit, les couleurs de peau ont disparu. Petit à petit, le film devient un film dans lequel les noirs, les blancs, tout le monde est mélangé, et personne ne fait plus attention à rien. C'est ce qui s'est passé vraiment entre les acteurs bénévoles de cette histoire.
Voici, extrait du livre de Jean Rouch, Les Songrailles, un passage sur les femmes tranquilles, étranges infirmières du Niger.
On les appelle Olé Congo, captives des Olé, ou plutôt Baouya, mot dont j'ignore le sens exact, mais qui signifierait pileuse. Elles forment l'élément tranquille et calme de toutes les cérémonies et du culte des Olé. J'ignore quelle est leur origine, les mythes ne les mentionnant pas, et leur rôle, d'ailleurs fort discret, les laisse le plus souvent au second plan. Le recrutement de ces femmes tranquilles se fait lui aussi parmi les fidèles des cultes, mais sans que le génie intervienne d'une façon comparable à celle du choix de ces danseurs. Ce sont simplement des fidèles zélés qui n'ont pas les dons particuliers pour être olé bari, mais qui sont toutes prêtes à montrer leur bonne volonté en rendant des services. Très souvent, ce sont des femmes des prêtres, des imams surtout, et qui, n'étant pas possédées, sont à même d'aider efficacement leur mari. Ce groupe est composé exclusivement de femmes, car seules des femmes peuvent se livrer aux travaux domestiques nécessaires. Le rôle des femmes tranquilles est d'aider et d'organiser matériellement tout ce qui touche au culte des Olé. Ce sont elles qui préparent la nourriture pour les génies, gâteaux spéciaux où se mêlent les poudres des arbres, pile l'écorce des arbres en poudre. Pour certaines préparations, il faut que cette écorce soit pilée par une jeune fille vierge. Répare et range les objets rituels des génies. Dans les cérémonies, leur rôle, bien que très caché, est fort important. Elles sont en quelque sorte les machinistes chargées de toute la besogne matérielle de la fête, s'occupant des danseurs en crise, essuyant la bave ou la sueur des possédés, les mouchant, apportant les mortiers ou les nattes sur lesquelles ceux-ci s'assoient, leur parlant d'une façon gentille, en priant les génies de rester davantage. Je n'oublierai jamais l'une de ces vieilles femmes caressant doucement le dos d'un autre possédé par Niabri, les secouer de furieux sanglots et qui lui répétait d'une voix infiniment douce « Niabri, Niabri ». Éloignant les jeunes enfants qui risquent d'être blessés par des manifestations trop brutales de Aouka. Bref, ce sont les rouages, discrets mais indispensables, du mécanisme apparemment désordonné de la cérémonie.
Et vous, justement, qui avez l'habitude de mettre en balance ces deux sortes de vie, c'est-à-dire la vie que nous menons et leur vie, je ne sais pas si vous en concluez quelque chose, mais enfin si, quand même, il y a des moments où vous les jugez, ces deux vies-là.
Pour le moment, je crois que les Africains ont une vocation considérable pour le bonheur. Ça a l'air ridicule de dire cela. Ce sont des gens qui sont heureux. Et qui sont heureux, peut-être, pour une raison essentielle, c'est que contrairement à nous, ils n'ont pas peur de la mort. Dès leur enfance, on leur apprend que pour que la vie existe, il faut qu'il y ait la mort. Je l'ai vu plusieurs fois dans des cas dangereux. Ils n'ont absolument pas la peur de la mort. Et c'est pour moi, je crois, un des grands secrets que nous avons perdu. Et si vous voulez, ça a l'air d'être prétentieux, mais si j'ai un jour un message à apporter à nos pays, ce serait un peu celui-là. Montrer comment des gens peuvent être heureux dans des conditions de vie très dures, qui sont à la limite chaque année de la famine, qui sont à la limite de la pauvreté, du paupérisme plus affreux, et qui ne sont pas des gens résignés, qui sont des gens heureux. Et qui sont heureux parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'aiment pas la souffrance, ils n'aiment pas toutes ces choses, ils n'aiment pas ce qui entoure la mort, mais ils n'ont pas peur du phénomène. Et quand je vais en Afrique, et quand je reviens en France, ce qui maintenant se fait assez souvent, et très facilement, eh bien c'est tout d'un coup, quand on arrive en Afrique, de voir des gens qui sont différents, dont le comportement justement dans la rue est différent, de gens qui sourient.
Et ce ne sont pas les gens qui sourient que l'on rencontre en Italie ou ailleurs. Et lorsque je rentre à Paris, j'ai l'impression de rencontrer des condamnés, condamnés à vivre.
Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présentait aujourd'hui Jean Rouch. Des extraits des livres de Jean Rouch, La religion et la magie chez les Sonrailles et Les Sonrailles, étaient lus par Jean Topard. Prise de son, Pierre Simon, assistante de production, Marie-Claude Dupas.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 2 Régionale le 29 juillet 1961. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.